texte de l'encens 25 après Jésus-Christ. Le Messie a eu 12 disciples. Après la montée du Christ au ciel, les 12 disciples sont partis dans les provinces de la terre habitée. Ils enseignèrent la grandeur du Messie. Et de là où ils auront reçu cet enseignement, ceux qui encore maintenant servent la justice de leur prédication sont appelés chrétiens. Et ce sont ces gens-là qui, plus que toutes les nations de la terre, ont trouvé la vérité. Et ils reconnaissent en effet Dieu comme créateur, la providence de l'univers dans le Fils unique et l'Esprit Saint. Ils ne vénèrent aucun autre Dieu que celui-là. Ils ont les commandements du Seigneur, Jésus-Christ lui-même, gravés dans leur cœur. Et ils les gardent dans l'attente de la résurrection des morts et de la vie du monde à venir. Ils ne commettent ni adultère, ni prostitution, ni paroles fausses, ni faux témoignages, ils ne convoitent pas le bien d'autrui. Ils vénèrent leur père et leur mère. Ils aiment ceux qui sont proches d'eux. Ils jugent avec justice. Et tout ce qu'ils ne veulent pas qu'un autre leur fasse, ils ne le font jamais. Ils consolent ceux qui leur font du mal. Ils s'en font des amis. Ils s'efforcent de faire du bien à ceux qui sont leurs ennemis. Ils s'en efforcent toujours. Ils sont bons, ils sont doux. Ils s'abstiennent de toute union illégitime, de toute impureté, quelle qu'elle soit, et ils ne méprisent pas la veuve, n'accablent pas l'orphelin. Celui qui a pour voir besoin de celui qui n'a pas. Et s'ils voient un étranger, ils le font entrer sous leur toit et se réjouissent de sa venue, comme si c'était véritablement un de leurs frères. Et d'ailleurs, ils s'appellent eux-mêmes frères. Et ils le sont. Véritablement, non pas de chair, mais par l'âme. Les apôtres, ils sont tous morts martyrs. Quand c'est Saint Jean, on ne se met pas en rouge, je crois pas. Même si on a voulu le martyriser, mais comme la mort n'a pas suivi l'exécution, dans l'huile bouillante, il n'est pas mort. Nathanaël, on l'a écorché vif. C'est-à-dire, on a pris un couteau comme ça. Et on a enlevé la peau comme ça, du haut jusqu'en bas. C'est pour ça qu'on le représente avec, avec sa peau comme ça dans la main droite. Mmh. Nathanaël. Et quand il a rencontré Jésus, comme on le voit dans l'évangile d'aujourd'hui, les Juifs connaissaient le Christ comme ça spirituellement, parce que ça faisait 13 siècles qu'on parlait de Jésus, du Christ qui allait venir, tout ça, mais et qui était déjà venu, puisque c'est le Christ qui parlait avec Moïse dans les 40 ans où ils ont traversé le désert. Tous les jours, Jésus, enfin le Christ parlait avec Moïse, et il le voyait un peu sous forme de lumière transfigurée, enfin une forme humaine. Mais transfiguré, il ne voyait que de la lumière. Et il voyait Jésus qui s'entretenait dans. Enfin, il le voyait. Il l'apercevait lorsqu'il rentrait dans la tente de réunion pour parler avec Moïse. Et du coup, Moïse leur a appris quand même. Et Jésus, le Christ leur a appris à le laisser rentrer lui dans la tente de leur. dans le temple de l'ordre, dans la tente, que notre intérieur était un lieu de réunion avec Jésus, avec le Christ, quoi. Mais si bien que c'est toute une spiritualité, quoi. La spiritualité juste, c'est une spiritualité messianique. Une union à l'intérieur de nous, totale, entre le Messie et nous. Et bon, eh ben, ceux qui vivaient ça, c'est vrai, on ne se rend pas compte, nous, hein, parce qu'on est à l'époque de la télévision et tout. Mais on ne se rend pas compte quand il n'y avait pas de télévision, pas de radio, pas de journaux, pas de trucs. Et que l'ambiance était quand même bénie, quoi, religieuse. C'était le cas. Hein. Pendant 13 siècles, il y avait une ambiance chrétienne, enfin messianique, quoi. Ils étaient impressionnés quand même. Hein. Et bien ceux qui s'y mettaient, ceux qui vraiment s'y mettaient, ben, au bout d'un certain temps, quand ils allaient jusqu'au bout de la transformation de l'union avec le Messie, à l'intérieur d'eux, le Messie prenait toute la place. Et à certains moments, évidemment, ils pouvaient répéter aussi les paroles que le Christ avait données à Moïse, mais avec leur signification de douceur, de divinité, de splendeur que nous connaissons, nous, dans l'Évangile. C'est ça le secret des nations d'Israël et des prophètes. Mais tout le monde n'était pas prophète ou dans le secret, quoi. Tout le monde n'était pas parmi les justes ou les prophètes ou les anaouis. Mais il y en avait quand même quelques-uns. Et de vivre ça tous les jours, tu vois, c'est... Moi, j'ai une chance incroyable d'avoir pu vivre comme ça. Au milieu de ces régions, il n'y a pas que du sable, hein, il y a quand même, faut pas exagérer, où il n'y a pas grand-chose de moderne, voilà, d'accord. Mais il y a encore des choses qui existaient à ces époques-là. Il y a les pauvres, la simplicité des gens, et tout ça. Et le temps, on a toute la journée. On passe pas son temps. C'est vrai, regarde, le temps qu'on passe à ranger, on a tellement de choses que du coup, on passe un temps fou à ranger des trucs. Eux, ils passent zéro temps à ranger puisqu'ils n'ont rien à ranger. Et donc, le temps est donné quand même aussi au rythme et à la prière et à l'union avec le Messie. Alors, et à l'étude aussi, l'étude. C'est pas du tout l'étude comme le Coran, hein. On en a parlé déjà de ça. C'est une étude très 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 divine de la parole de Dieu. Très 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 divine, très très divine. Elle se répercute de l'intérieur, dans l'intériorité de la tente de réunion qui est notre chair. Notre sang pour notre sang, la nefesh, puis le sang. Et quand c'est continuel, comme ça, à un moment donné, ça devient continuel, c'était assez courant. C'était assez courant que il y ait comme une espèce de rayonnement lumineux, visible. Et c'est à cause de ça qu'ils mettent la kippa. C'est la signification, je mets la kippa. Parce que ce rayonnement lumineux visible, voilà, il faut qu'il tourne comme ça. Jusqu'à ce que le Messie se manifeste comme ça, à l'extérieur, avec sa lumière de gloire, sa vision béatifique. Et là, pour ça, il faut qu'il s'incarne. Et bien Nathanaël, alors il y a une expression, dit quand tu étais sous le figuier. Alors être sous le figuier, je pense que vous vous rappelez ce que ça veut dire. C'est quand quelqu'un transmet les saveurs les délicieuses de la Torah à quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment pas lui, c'est authentiquement, toute vérité, c'est pas lui, c'est vraiment le Messie à travers sa bouche qui surabonde et qui transmet. La parole de Dieu, enfin, la révélation, en fait. à ceux qui sont là. Et les gens viennent parce qu'ils voient tout de suite que c'est pas lui qui parle, mais que c'est le Messie qui avait parlé à Moïse. Ils le voient tout de suite. Et ça se voit parce qu'il y a quelque chose, il y a une lumière visible. Il y a une lumière qui déborde. Alors quand quelqu'un a atteint une union avec le Messie, avec le Christ, le Messie d'Israël, aussi profond, aussi lumineux, aussi contemplatif, aussi surabondant, on l'appelle Hotmei Haktalmud, c'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est un, voilà, c'est l'agrégé du Messie, c'est l'agrégation du, l'agrégation de la céleste messianique. Hotmei Haktalmud, c'est ça, Haktalmud, c'est ça. Et donc quand quelqu'un est comme ça, eh bien, bien sûr il voit, il n'est pas du tout ignorant de ce qui lui arrive, à savoir que le Messie est là, et qu'il y a un face-à-face intérieur et quasiment visible extérieurement du Messie et de lui. Et il y a des choses du coup qui viennent plus du Messie seulement, mais du Saint-Esprit aussi. Et donc Jésus lui dit, celui que tu as vu, le Messie là, que tout le monde a pu voir, c'est moi, quand tu étais sous le figuier, pendant que tu étais dans cet espace de trans, c'est pas tout à fait une transfiguration, presque, mais presque, parce que quand même, il y a vraiment de la lumière visible. Mais c'est surtout la parole, il y a une vision contemplative. Donc, il a vu, ces gens-là voient le Messie. Jésus lui dit, Abraham m'a vu, il s'est réjoui. Hein. La foi, quand elle va un petit peu jusqu'au bout, ben, voilà, donc. Donc celui que tu, quand tu t'es souvenu, c'est moi qui t'ai vu. Ça veut dire que voilà, Nathanaël faisait partie de ces gens qui étaient dans une spiritualité juive normale. Enfin, qui vivaient bien ça, qui vivaient bien la grâce de l'Ancien Testament. Mais finalement, la grâce de l'Ancien Testament, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est Jésus t'envahit tellement grand que c'est lui quoi qui déborde de toi. Et c'est pas toi qui... C'est à nouveau d'aller plus profondément en lui. Non, c'est lui qui déborde de toi et qui se montre. Et du coup, tu vois qu'il est plus que le Messie. C'est pour ça qu'il dit, c'est toi le Fils de Dieu. Le Saint d'Israël. Voilà, et c'est là que c'est beau, c'est bien, c'est mal, c'est bien, vous savez, de ça, de fêter Saint-Barthélemy comme ça, ensemble le soir, parce que, et bien sûr que Jésus apporte à Nathanaël beaucoup plus qu'une grâce messianique d'unité vivante, lumineuse, surabondante, etc., pour la communication de la révélation et l'annonce l'annonce intime et intérieure de la divinité du Messie. Les apôtres sont pas seulement là pour apporter l'annonce de la divinité du Christ, ils sont pour quelque chose de plus grand, puisqu'ils sont venus, ils vont devenir les porteurs de la bénédiction du Christ jusque dans le fond du ciel. Ce sont l'Apocalypse que tu as lu, ils vont devenir les fondements de l'au-delà de la terre, du monde créé de la résurrection toute glorieuse et bénie, et du sommet des cieux. Et donc, et ils vont devenir les instruments, les apôtres vont devenir les instruments du ciel dans la terre, et puis cette possibilité, pas seulement ces zones d'accueil dans l'Ancien Testament de la descente de la grâce et l'accueil de la grâce, mais aussi et surtout ce passage de la grâce à l'au-delà de la gloire morte, l'air, résurrection. Qui sont inscrites dans le livre de la vie. Ils ont accès pas seulement à la Torah, à sa surabondance intime et intérieure, ils ont droit, pour ainsi dire, au livre de la vie. Et c'est pour ça qu'ils sont les maîtres des sacrements. Alors, du coup, ben, c'est un écorché vif. Voilà. Son martyr, c'est ça, c'est la peau, quoi. Le dernier élément, quoi, qui nous sépare de la vie éternelle et incréée, qui fait qu'on rentre tout à fait en dehors du temps. Il n'y a plus de temps après, dans l'éternité de Dieu, où on va s'écouler dans la lumière de gloire. Le dernier voile, c'est le corps. C'est le corps corruptible. Et c'est pour ça que le fait qu'il soit martyr de cette manière-là, et quand c'est vif, plus un centimètre de peau sur lui, signifie bien ça. Que les apôtres, le martyr d'un apôtre ne peut pas être séparé du martyr d'un des autres apôtres. Donc les 12 doivent vivre ce que signifie chacun des martyrs des 11 autres. Voilà, et bien lui, en tout cas pour Nathanaël, c'est sûr. C'est ce passage de la matière corruptible à la matière. La matière, quoi, dans la résurrection, Jésus, Marie, Joseph vont ressusciter. Mais il y a quelque chose dans la matière, dans la gloire de la résurrection, de Jésus, de Joseph, de Marie, qui doit être déchiré. Même un corps ressuscité glorieux, il y a quelque chose qui doit être enlevé, quoi. Parce que notre ciel ne consiste pas à entrer dans le monde de la résurrection. Notre ciel consistera à rentrer dans le monde de Dieu. Et le monde de Dieu, c'est plus que le monde de la résurrection. Et les apôtres doivent être sur la terre ceux qui sont la cause méritoire de ce passage. J'allais dire presque une bêtise, mais Marie a été la médiatrice de la résurrection, mais les apôtres sont les médiateurs d'un livre de la vie. Ah, oh, ils ne le font pas sans la Vierge, ils ne le font pas sans Marie, hein. C'est évident. Hein. Mais sans les apôtres, non. Marie n'est pas toute seule, hein. Il y a son côté sponsal en Marie, bien sûr, Jésus-Marie-Joseph. Puis il y a les apôtres, quoi. Et c'est pour ça que nous, quand on y pense à ça, on se dit on est peut-être un petit peu loin de tout ça, mais c'est quand même bien de se rappeler quand même, de toucher du doigt, de dire attends, il y a une manière quand même de dire oui, hein. Ok, deuxièmement. Puis c'est bon. Dis oui. Bon, je sais pas à tout ce à quoi je dis oui, mais je dis oui à tout ça, quoi. Je dis ok parce que je veux bien y coopérer, deuxièmement. Et troisièmement, c'est bon, en ce sens que déjà, j'y trouve ma complaisance. Il faut rajouter, comme je vous ai dit l'autre jour, une quatrième souffle intérieur. On dit amen. C'est-à-dire, c'est en train de se faire. Ok. Donc oui, d'abord. Ok. C'est bon. C'est en train. Ja. C'est pas nécessaire de tout comprendre de A jusqu'à Z, mais c'est nécessaire de l'avoir entendu. Tout le monde comprend que c'est pas par le cerveau qu'on rentre dans l'union transformante. Et dans la mise en place du corps spirituel venu d'en haut, tout le monde comprend que c'est pas le cerveau qui fait ça. Hein, c'est sûr. Alors merci, vous êtes là, c'est superbe. Pour la 57e fois, on va faire. On va s'introduire. Sans la présence réelle de Jésus crucifié. S'engloutir dedans, disparaître. Et dire Amen. Et laisser surabonder ça jusque dans la vie éternelle. Pour que ça remplisse, parce que Dieu seulement peut remplir les capacités de Dieu en l'intérieur de Dieu. Ça remplisse le Saint de la paternité de Dieu, des vastères. Pour qu'il y ait un acte de consolation du Père. Il faut qu'on puisse être les sources instrumentales de cette arc. La consolation du Père.